Embarquement immédiat pour G comme Odéon. L'émission des Good Gones qui cause culture sur lyondemain.fr. Cette semaine, nous enregistrons à la Comédie Odéon. Merci à l'équipe pour leur accueil et leur bonne humeur. C'est toujours un plaisir de se retrouver ici. Au sommaire, paroles et musique avec le dernier album de Philippe Prohomme, Brille. Guillaume sera accompagné de Stéphane Perrault des éditions Les Crocos, né il y a quelques mois avec une BD, Le Voyage à Lyon, dédiée aux enfants. Gaëlle nous parlera de l'exposition du Musée de l'imprimerie et de la communication graphique, nous permettant de découvrir le travail de Gérard Paris Clavel, véritable artisan militant du multiple. Et nous terminerons, bien sûr, par nos Gédéons, les incontournables du moment. Cette semaine, une fois n'est pas coutume, c'est moi qui parle musique avec Philippe Prohomme. Je l'ai rencontré la semaine dernière lors d'un de ses passages à Lyon, car le Gone a quitté la ville pour respirer à la campagne. Est-ce que la nature, la belle campagne dans laquelle vous vivez aujourd'hui, vous inspire pour vos chansons ?
J'habite que depuis le mois de juin, donc j'ai recommencé à faire des instrumentaux, à créer depuis une semaine. Pour les textes, je sais pas. En fait, le truc, c'est que là-bas, il y a un côté un peu... Déjà, c'est une petite maison, donc il faut s'occuper de son jardin. Je suis chauffé au bois, il faut que je coupe mon bois. C'est un peu une autre vie, quand même. Il y a quand même un truc... Y a moins
Philippe Prohomme, trappeur.
Ouais, non, mais en fait, c'est pour ça que je suis à Lyon aujourd'hui. C'est que j'essaye quand même de me faire... Voilà, de me présenter physiquement, de me passer un coup de tondeuse. Non, mais c'est vrai, j'ai pas recommencé à faire des chansons et j'en ai beaucoup d'avance. Donc, je travaillais en réalisation pour un autre groupe. Et donc, ce qui m'a pris tout mon temps m'a été pris là-dessus. Mais je pense que ça va être très inspirant.
Le dernier album s'appelle Brille, Philippe Prohomme. Comment s'est écrit cet album ?
C'est vrai que j'ai choisi de ne pas exprimer ma rage ni mes turpitudes nombrilistes dans cet album. Ça reviendra. Cet album, je m'étais dit, qu'est-ce qui est le plus important pour toi ? Et je m'étais dit, bon, ok, c'est la nature, c'est notre rapport au corps, notre rapport au vivant. Écrire que là-dessus, en me donnant un cadre, c'est-à-dire le cadre, c'était mon ordinateur, ma voix, en me désaffranchissant du résultat, du format, etc.
Sortir de la norme, tout à l'heure, hors micro, vous me disiez que finalement, vous n'aviez plus tellement envie de faire des grands concerts, des grandes salles, et puis même d'être dans des salles de spectacle, tout simplement, mais plutôt d'explorer des petites formes, c'est-à-dire de faire qu'on n'attend pas forcément de vous.
En fait, le truc du concert, le dernier album, il avait eu un dossier de presse incroyable en 2012. Vraiment, tout le monde avait dit que c'était génial, super. J'ai monté une super équipe de scène. Et puis finalement, on a fait 30 dates avec... C'était assez épuisant, en fait. En fait, de se battre pour jouer. Alors que les programmateurs disaient « Ouais, l'album est génial et tout. » Ou ils proposaient à mon tourneur des tarifs qui étaient insultants. Et j'avais dit à mon tourneur « Non, non, mais ça suffit, en fait. » Soit on tourne... Non, mais on demandait vraiment que dalle. Hein. On demandait le minimum syndical. Je suis pas du genre à demander beaucoup. Mais voilà. Et en fait, je me suis dit « Il est peut-être temps de laisser la place... » à peut-être des trucs et plus sexy, enfin entre guillemets plus jeune. Et c'est vrai que c'est ce que les programmateurs disaient à mon tourneur. Ils disaient putain, un programme génial, l'album super, ok super, bon sinon qu'est-ce que t'as de neuf. Et à un moment j'ai l'âge que j'ai, moi j'ai tourné comme un cochon dans les années 2000. Bon bah c'est plus l'heure. Et en fait ça demande une énergie qui est incroyable et j'ai pas envie de passer cette énergie dans rassembler des gens, répéter, faire des résidences, engager des musiciens pour qu'ils soient payés au lance-pierre pour traverser la France pour aller faire une heure de concert. Donc là, je me suis dit, non, tu vas y aller tout seul, en appartement, avec ta petite enceinte. Ce sera des concerts rencontres destinés au public qui m'aime déjà, qui me connaît. Ça ne va pas être destiné pour faire découvrir quelque chose, mais plus, vous m'avez vu en concert, vous connaissez mes albums, rencontrons-nous, en fait. Voilà, moi, je suis plus parti sur un truc comme ça. Voilà, il y a un truc de proximité qui me plaît. Et même si j'ai été heureux de jouer à Solidays, etc., je crois que je n'ai pas envie d'être Olivia Ruiz. Je la cite parce que quand elle avait vendu des caisses de La Femme Chocolat, là, j'avais traîné quelques temps avec elle et je voyais à quel point c'était pas une vie, quoi. Et du coup, je me dis, non, le petit format me va très bien, ma notoriété actuelle me va très bien, j'ai plein d'autres activités super. Une idée de dire, c'est une énergie de malade, est-ce que j'ai envie de la mettre là-dedans ? Non.
Vous parliez des autres activités et notamment le conseil à des artistes pour mener justement leur projet jusqu'au bout.
Exclusivement la scène, j'ai été formé par Philippe Albaret qui a un petit peu inventé ce métier en France, qui avait inventé le chantier des Francofolies de La Rochelle, à qui je dois beaucoup, aux Franco, à Jean-Louis Foulquier et lui. Ils m'ont formé pendant 2 ans, c'est du coaching scénique, moi vraiment ma part c'est vraiment la scène. Moi, c'est vraiment les problématiques de la scène. Le rapport au public, l'énergie entre les musiciens, la confiance, la légitimité, le syndrome de l'imposteur, tout ça, la setlist, un peu de scéno, toutes les problématiques de scène. Maintenant, ça fait 16 ans que je fais ça, donc je commence à avoir un sérieux bagage, un sérieux CV qui me permet d'aborder toutes les esthétiques. C'est quelque chose que j'adore faire. Quand, à la sortie de ma tournée qui avait duré 7 ans et demi, et que j'en pouvais plus, c'est là que s'est fait le virage vers le coaching et je me suis rendu compte que je m'épanouissais autant en faisant travailler des groupes que sur scène. Parce qu'on rentre, il y a une rencontre humaine qui est incroyable, on rentre dans l'univers artistique de quelqu'un, c'est très exaltant, très gratifiant.
Alors l'activité du moment, ou en tout cas l'actualité du moment, c'est Brille. C'est un album que je qualifierais de très personnel. Comment s'est fait le choix, justement, de ces 9...
Pas eu de choix, parce qu'il y avait... En fait, quand j'ai choisi de composer en parlant de rapport au corps, etc., de ce qui était important pour moi, j'ai fait 8 titres qui sont restés dans les placards pendant quelques années, 5 ans. Et il y a des événements qui ont fait que j'ai énormément écrit, énormément composé, et aussi composé pour d'autres auteurs depuis 2 ans. Et quand j'ai vu toute cette matière arriver, là, j'ai d'avance une quarantaine de chansons là, qui sont prêtes. Je me suis dit, il faut absolument que tu sortes ce que tu as écrit il y a 5 ans. Là. Et c'est pour ça que cet album est sorti, en fait. Bon, je ne sais pas combien de temps il serait resté dans le placard. Et il y en a un petit 9e qui a été composé et écrit l'année dernière. Regarde, le dernier titre. Mais quand je l'ai écouté, j'ai fait, mais c'est la conclusion parfaite à cet album. Il est carrément en écho avec le premier qui s'appelle C'est beau. Et j'ai décidé de le mettre. Mais il n'y avait pas... Alors d'habitude, moi, je suis... C'est vrai que je choisis, j'ai 35 chansons, j'en choisis 12 pour un album, c'est comme ça que je fonctionne. Là, j'ai mis tout ce que j'avais, comme Francis Cabrel, avec qui je discutais l'autre jour et qui me disait, ah, mais moi, il y aura, quand je vais mourir, il n'y aura pas d'album posthume avec des maquettes et des démos. Moi, je compose 13 titres tous les 3 ans et ils sont dans mes albums. Et ben là, c'est pareil, dans celui-là, il n'y avait que ça. Voilà, mais j'en ai beaucoup qui arrivent derrière.
Est-ce que vous avez envie de faire écouter à mes auditeurs? Lequel?
Moi, j'ai envie qu'on écoute Brille pour toi, parce qu'un clip est en finalisation là. Et c'est pour moi le morceau héritage un petit peu. Et comme le deuxième couplet s'adresse à ma fille, a été écrit pour elle. Pour moi, c'est un peu le titre que s'il n'en restait qu'un, ce serait celui-là. J'aime beaucoup tous les autres, mais j'ai envie qu'on écoute Brille pour toi.
Merci beaucoup Philippe Prohomme pour ce moment.
Merci à vous. Qu'on va leur dire. Ah ouais, pardon, excuse-moi. Même pas capable de demander pardon comme il faut. On va les regarder comment? Par en dessous, comme des chiens qu'on accuse? Avec nos petites queues entre les jambes et nos petits yeux mouillés? Comment se justifier maintenant? On leur reproche de nous avoir observés sans rien dire? D'avoir tardé à nous accuser? Mais comment on va s'en sortir? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est rien à côté de ce que ça va devenir. Qu'on aura la chance de mourir quand eux auront encore des années à tirer dans la grande poubelle qu'on aura laissée. Il n'y a plus qu'à leur transmettre le courage qu'on n'aura pas eu, en leur montrant le plus beau du monde, dans l'art, dans la culture, dans la nature, dans l'humain, l'humain qui brille. Brille pour moi, toi, né d'un amour, brille de courage, de foi, brille toujours. Brille pour moi, toi, né d'un amour, brille de courage, de foi, brille toujours. Brille pour moi, toi, né d'un amour, brille de courage, de foi, brille toujours. Écoute, je sais pas quoi te dire. Je fais au mieux, je fais pas pire. Je fais ce que je peux, je te fais rire. Je me dis que parler manque à beaucoup qui ne savent plus dire quand ils aiment et se sentent bien ou se sentent mal et ont besoin. Alors on parle et on partage. Je te montre le beau et quand c'est moche, quand c'est contre la vie, on en parle aussi. Et je te fais confiance, tu peux briller à ta mesure, pas plus, pas moins. Tu es ce que tu es et tu seras ce que tu es déjà. À défaut de paradis, je te laisse l'utopie, celle qui n'est pas encore. Tu peux briller pour elle et commencer par ça. Tu le peux et tu le pourras. Et tu sais pourquoi? Parce que tu brilles déjà. Brille pour toi, toi, né d'un amour. Brille de courage, de foi, brille toujours. Brille pour toi, toi, né d'un amour. Brille de courage, de foi, brille toujours.
toi, né d'un amour. Brille de courage, de foi, brille toujours. Brille pour toi, toi, né d'un amour. Brille de courage, de foi, brille toujours. Brille pour toi, toi, né d'un amour. Brille de courage, de foi, brille toujours. Brille pour toi, toi, né d'un amour. Brille de courage, de foi, brille toujours.
On poursuit notre émission avec la bande dessinée, et pas n'importe laquelle, celle dédiée aux enfants et à notre belle ville de Lyon. Guillaume, tu es venu accompagné de Stéphane Perrault, ancien journaliste, cofondateur de la maison d'édition Les Crocos et co-auteur du livre Le Voyage à Lyon. Bonjour à tous les deux.
Moi je voulais t'inviter parce qu'évidemment cette BD sortie maintenant il y a 6 mois.
Fin avril.
Comment est née l'idée d'abord ? Est-ce que la maison d'édition est née avant la BD ou l'inverse ? Et comment tout ça, ça s'est un petit peu formaté, puisque tu viens pas du tout de ce monde-là?
Effectivement, c'est un monde que j'ai découvert et que je continue à découvrir. L'idée initiale, c'était de faire un livre et non pas une maison d'édition. C'est donc une bande dessinée qui est née d'une envie, d'un besoin. On cherchait pour nos enfants, avec ma compagne Alexandra Horvat, qui est co-autrice, co-auteur de cette BD, on cherchait un livre qui permet aux enfants de découvrir la ville de Lyon tout en s'amusant. On a cherché ce livre, on l'a pas trouvé, et selon la formule... On a fini par l'écrire. Ça nous a pris 2 bonnes années et le Covid est arrivé au moment où nous cherchions un éditeur. On en avait trouvé un, mais la crise sanitaire repoussait encore de 2 ans la sortie de cette BD. On a donc décidé de la faire nous-mêmes et pour ça, on a monté une maison d'édition qui s'appelle donc les éditions Les Crocos. Sachant qu'on a d'autres projets perso, donc on est un petit peu dans l'auto-édition, l'auto-publication, mais on veut aussi... éditer des auteurs lyonnais, auteurs au féminin, au masculin, et des dessinateurs, des dessinatrices de la région, parce que c'est une région très riche en BD.
Donc c'est un petit peu particulier de se lancer dans une bande dessinée sans dessiner.
C'est vrai. Nous ne dessinons pas et on a effectivement écrit et scénarisé cette histoire et on s'est mis à la recherche d'un dessinateur. Quand on a vu les petits dessins qu'on faisait justement pour le storyboard, on s'est dit oui, là, effectivement, il y a urgence, il faut trouver quelqu'un dont c'est le métier, parce que c'est un métier, un vrai. Et donc, on s'est tourné vers un dessinateur qu'on aime bien, qui s'appelle Le Silver. Il ne s'appelle pas comme ça, hein, c'est un nom de scène, d'artiste. Il s'appelle Silver Join. C'est un dessinateur qui est également dessinateur de presse et qui a déjà publié 7 BD pour adultes chez Delcourt, donc une maison assez prestigieuse. On était contents qu'il nous dise oui. C'est sa première BD jeunesse. Depuis, il a deux nouveaux projets en jeunesse chez Delcourt et on espère qu'on va pouvoir faire un second tome avec lui prochainement.
Il y a un niveau de lecture pour les plus petits, on va dire les 5-6 ans, et puis peut-être aussi pour les parents qui vont lire cette histoire.
C'est un ouvrage qu'on peut découvrir à partir de 5-6 ans, lu par les parents. C'est un ouvrage qu'on peut lire en lecture seule entre 7-8-9 ans. Et comme lorsque les enfants aiment un ouvrage, ils ont tendance à réclamer à leurs parents de le lire, le relire, on a voulu mettre un second niveau de lecture avec plein de petites remarques, anecdotes destinées aux parents. Qui s'ennuie moins.
Là, c'est un ouvrage qui fait plus de 180 pages.
Il fait 160 pages, mais c'est déjà énorme, tu as raison. 160 pages quand on est petit, c'est un pari, c'est quelque chose qui n'existe pas trop, et c'est ce qui nous plaisait aussi, c'était de faire quelque chose qui n'existe pas, sachant que l'ouvrage est en 9 chapitres, 9 chapitres pour 9 quartiers, on pourrait y revenir peut-être. C'est un ouvrage qu'on peut lire en plusieurs fois, à la fin de chaque quartier, on peut s'arrêter. On peut aller dormir si on est petit, ou on peut le lire en une fois, ça nous surprend, mais il y a beaucoup d'enfants qui le lisent en une ou deux fois, malgré ces 160 pages.
Pour revenir à ces quartiers, comment vous avez fait votre choix ?
Ce qu'il faut peut-être redire, c'est l'histoire quand même, qui est l'histoire de 3 cigognes en migration, qui normalement survolent Lyon pour aller jusqu'en Alsace, qui vont s'arrêter suite à un incident de vol de l'une d'elles. Elles n'ont pas du tout prévu de s'arrêter à Lyon. C'est même un vrai problème pour elles de devoir rester une semaine pour résoudre ce petit souci de vol. Elles pensent qu'elles vont s'ennuyer ferme. Et en fait, elles vont rencontrer des habitants qui vont les aider à résoudre leurs problèmes, mais surtout leur faire visiter les différents quartiers de la ville. Certains quartiers qui sont imposés d'eux-mêmes. On voulait déjà que ça reste plutôt central. Les parcours qu'on propose, enfin que font les trois cigognes et que les enfants peuvent réaliser aussi. Ce sont des petits parcours avec des lieux proches les uns des autres. Alors on a pris des lieux emblématiques. Évidemment, on ne peut pas parler de Lyon sans la place des Terreaux, sans Bellecour, sans Fourvière. Mais on a aussi voulu mettre des objets, des lieux beaucoup moins connus. Et on est parti sur le terrain avec nos propres enfants. En fait, en regardant comment ils appréhendaient la ville, ce qui les amusait, ce qu'ils notaient. Et on a demandé aux dessinateurs de dessiner à hauteur d'enfant, justement. Parce que quand on est petit, on voit pas du tout la ville de la même façon, et c'est comme ça qu'on peut s'amuser avec du mobilier urbain, on peut remarquer une boîte à dons, une boîte à livres et trouver ça rigolo, des fleurs géantes par exemple, les fameuses fleurs de trottoir qu'il y a rue Chalopin à la Guillotière. Eh bien quand on est enfant, ce sont des fleurs qui sont plus hautes que vous, et tout d'un coup ça prend une autre dimension. Donc on a à la fois mis des lieux très connus, des monuments connus dits incontournable, et puis des choses plus anecdotiques mais qui plaisent aux enfants. Vous avez bien compris, il y a une des trois cigognes qui est blessée. Elle cherche dans chaque quartier une solution pour la guérir. Effectivement, à la Guillotière, elles vont chercher et trouver une herbe magique qui n'est pas celle à laquelle tu penses, mais qui est une herbe qui existe bel et bien dans un jardin de la Guillotière et qui a des vertus thérapeutiques, on dira.
En tout cas, moi j'invite tous nos auditeurs à consulter cet ouvrage, que ça soit pour les grands, pour les petits, parce que c'est vraiment un vrai bonheur.
Stéphane Perrault, des éditions Le Croco, vous avez décidé en fait de faire imprimer votre bande dessinée ici, dans la région. Fabriquer français, c'est possible. Ici, très près de Lyon, on fait de très belles choses. Et on était en train de parler du livre, de la qualité du livre, de la qualité du papier.
Alors, en fait, il y a plusieurs gros imprimeurs sur la région, dans l'Isère, dans l'Ain, et le nôtre en fait est dans la Loire, dans à Saint-Jules-la-Pendue, avec un bureau à Lyon. C'était très important pour nous de pas juste considérer des coûts et d'imaginer une impression en Roumanie, en Hongrie, ma compagne est originaire de Hongrie, ou en Chine même, comme ça arrive régulièrement, mais de trouver un imprimeur local, pour l'éthique certes, mais pas que, ça a un côté aussi très pratique de pouvoir rencontrer son imprimeur, de pouvoir discuter avec son imprimeur, de pouvoir choisir le papier ensemble, toucher du papier, aller au calage, pouvoir faire des modifs jusqu'au dernier moment. On a changé quelques teintes sur la couve au dernier moment, ça c'est précieux. Et en plus de ça, les imprimeurs français ne sont pas forcément si chers, parce beaucoup qu'on peut cher. Discuter. Ce sont des gens qui vous soutiennent, qui vous ouvrent ensuite leur réseau. Et ça, les libraires sont très sensibles aussi au fait qu'on ait choisi un imprimeur local.
Puis peut-être un dernier mot sur l'ouvrage. Il a été traduit en anglais aussi. C'est une volonté quand même, alors peut-être pas aller à l'export, mais en tout cas, Lyon est une ville internationale et accueille des touristes. Est-ce que vous auriez la velléité de faire d'autres traductions dans d'autres langues, je pensais à l'italien notamment, puisqu'on a une très forte communauté italienne et puis on est très proche d'Italie, il y a beaucoup de touristes.
L'italien, c'est une envie, oui, effectivement. Pour l'instant, la BD s'est vendue à peu près 1 millier d'exemplaires. On espère faire un retirage bientôt. Et si on fait un retirage, peut-être effectivement qu'on cherchera à la traduire en italien. On l'a traduite en anglais et on l'a fait traduire par une femme qui s'appelle Lauren Batta, qui est britannique, qui est mariée avec un Français, qui a des enfants bilingues, qui vit dans les Monts d'Or depuis une quinzaine d'années, qui nous a fait un travail remarquable puisqu'elle a travaillé avec ses propres enfants pour vraiment trouver les bonnes phrases, les bonnes formules et pas faire une traduction littérale, enlever des jeux de mots quand ça passait mal du français à l'anglais et au contraire en rajouter, en créer de nouveaux, toujours dans l'esprit du livre. Donc là, c'est vraiment une traduction qu'on aime beaucoup. Certes, c'est destiné à des touristes, mais surtout à des habitants de la région Rhône-Alpes. Il y a énormément de familles anglo-saxonnes, il y a énormément de couples mixtes, on pourrait dire, et il n'y a pas beaucoup d'offres.
Est-ce que vous avez donc d'autres ouvrages qui vont arriver ?
Oui, bien sûr. Il y en a un au printemps qui va être également une découverte de la ville de Lyon. Pour les plus petits, 3-5 ans, une histoire plus ramassée, plus simple, qui jouera beaucoup sur les sonorités, avec un dessinateur lyonnais, Thomas Bourgeois.
Le voyage à Lyon, une aventure des trois cigognes, les éditions Les Crocos. Salut Gaël, cette semaine tu évoques pour nous le parcours du graphiste engagé et militant Gérard Paris Clavel avec une exposition au musée de l'imprimerie et de la communication graphique.
En effet, l'exposition Avec, elle se nomme Avec, hein, consacrée à Gérard Paris Clavel au musée de l'imprimerie et de la communication graphique et saluée notamment par le directeur, hein, Joseph Beltante, qui insiste, la pandémie nous a confisqué nos images et nos textes depuis deux ans. Or, pensée depuis 4 ans par le musée, cette exposition ne pouvait mieux incarner ce fameux grand retour des images et des textes. Ce grand retour, quel est-il? Si je vous cite « Ma ville est un monde ». Qui a peur d'une femme? Un raciste est quelqu'un qui se trompe de colère. Inventons le présent. Ne vous taisez pas. Quand la mémoire s'efface, que reste-t-il de l'avenir? Orage, eau, désespoir. Argent, A-R-T, trait d'union, Jean, G-E-N-S. Peut-être que vous avez déjà vu ces textes dans l'espace public lyonnais, car ce grand retour aux images et aux textes sort aussi du musée, direction l'espace public. L'exposition commence dans la rue ou au musée, au choix. Au musée, pas de cartel. Volonté délibérée d'afficher les créations graphiques comme si vous les croiseriez dans la rue. La première vision est pensée pour être celle originelle de l'espace urbain. Chaque visiteur recevra toutefois du musée une plaquette cartel explicative. Chez Gérard Paris Clavel, les années, il a 78 ans, n'ont pas altéré l'acuité de ses métaphores visuelles et textuelles, toujours au service du militantisme. C'est pourquoi Isabelle de Barry, commissaire de l'exposition, préfère le terme « perspective » à celui de « rétrospective ». Car voir, d'accord, mais en perspective de prendre la parole, d'être actif, de militer. Pas de com chez Gérard Paris Clavel. Il insiste sur cette différence capitale entre information et communication. Au-delà de la création, ce graphiste social porte un véritable projet de société. Il rend socialement visible. L'enjeu est le travail sur le corps social, sur ce singulier pluriel pour le citer. Ces images se doublent toujours d'un parcours idéologique, d'un discours en action, et ce, en travaillant avec le fin connaisseur du terrain, soit le collectif. Gérard Paris Clavel souligne ainsi que les propos des travailleurs pour des slogans de manifestation, par exemple, sont souvent plus impactants que certaines logorées de certains syndicalistes. Faut-il s'exposer ou se manifester? Pour Gérard Paris Clavel, l'exposition est une manifestation. Vous en voulez encore un petit peu? Allez. Utopiste debout, rêve général. Avec un E final général. Égalité et E. Quand tout sera privé, on sera privé de tout. Mais aussi enchanté de vous connaître. Car l'exposition porte l'éloquent titre Avec. Pour Gérard Paris Clavel, on ne parle pas à propos de l'autre, mais avec l'autre. En filigrane, le collectif pointe toujours. Ce collectif, c'est Avec, qui nous a tant fait défaut pendant la pandémie, pendant cette longue période de sans contact. Vous aurez saisi combien l'exposition de celui pour qui les mots sont des fenêtres bouillonne d'énergie. Cet antidote à la fatalité s'incarnait déjà en 70 lorsque Gérard Paris Clavel cofonde Grapus, un groupe de graphistes luttant contre les impérialismes et pour la paix. Lutte retrouvée dans son association Ne pas plier, fondée en 91 et au leitmotiv suivant. Pour qu'au signe de la misère ne vienne pas s'ajouter la misère des signes. Graphisme engagé, graphisme en action et aussi graphisme en formation. Faire apprendre le métier et le savoir-faire demeurent des enjeux fondamentaux pour Gérard Paris Clavel, qui monte également des projets donc avec des élèves, par exemple ceux de CAP, du bâtiment, du lycée Tony Garnier de Lyon, pour citer notre environnement lyonnais. Car, pour encore citer Gérard Paris Clavel, l'emploi est mort, vive le travail. Ce volet apprentissage réjouit Joseph Beltante, directeur du musée. Selon lui, cette exposition permet de revenir sur les métiers mêmes de l'imprimerie, sur les images, les personnes travaillant autour de l'image et sur les techniques. Les affiches, dessins, revues et objets conçus lors des 30 dernières années de la carrière de Gérard Paris Clavel garantissent une expérience visuelle savoureuse, mordante et sans langue de bois. L'exposition avec Gérard Paris Clavel est à voir au Musée de l'imprimerie et de la communication graphique jusqu'au 27 février 2022. Plus d'informations sur imprimerie.lyon.fr.
Merci beaucoup Gaëlle. On ne fréquente pas assez ce musée de l'imprimerie.
J'adore ce musée.
Graphique. Ouais, absolument. Il est dans une petite rue, juste derrière la rue de la République. Les gens font du shopping en permanence, mais ne rentrent jamais dans ce musée, ou très très peu, et il n'est pas suffisamment fréquenté. Merci beaucoup Gaëlle. On va terminer notre émission avec bien nos coups de cœur pour cette semaine. Qu'est-ce que tu nous conseilles, Guillaume ?
Alors moi, c'est un petit peu particulier. Je voulais conseiller, ou plutôt remercier, le lycée de la communication Saint-Géraud à Aurillac, qui fait partie de notre région, puisque nous sommes bien en Auvergne-Rhône-Alpes. Pourquoi ? Parce que là-bas, il y a un prof extraordinaire qui s'appelle Fred Le Falleur, qui fait des projets avec ses élèves, qui consistent à faire des sujets de communication avec des artistes qu'il invite, notamment parce qu'il joue dans la région, soit à la coopérative de Mai, de Clermont, soit directement à Aurillac. Et donc là, la semaine dernière, Miossec est venu à Aurillac, et donc ses élèves ont fait des lithographies qui sont assez extraordinaires. Pourquoi je parle de ça ? Parce que Miossec sera en concert le samedi 27 novembre au Théâtre de Villefranche et qu'il faut absolument aller le voir parce qu'il chante évidemment son premier album Boire et puis aussi d'autres chansons qu'il a écrites pour d'autres artistes dont Barbara, enfin plein d'autres gens. Et c'est un spectacle que moi j'ai vu au Fort de Bron là, en début d'été et c'est vraiment très touchant. En plus, il joue avec sa compagne Mirabelle Gillis, qui est une violoniste incroyable. Donc, c'est vraiment un très bon spectacle. Et voilà, c'est au Théâtre de Villefranche, c'est le samedi 27 novembre.
Merci beaucoup, Guillaume. Gaëlle, un petit Gédéon pour terminer cette séquence.
Alors, mon Gédéon de la semaine est le Mini World Lyon au Carré de Soie à Vaux-en-Velin. Immense parc à maquettes animées, ouvert depuis l'été 2016, Mini World Lyon propose ville, montagne, campagne, sport et spectacle, mais tous recréés en miniature. La vision du Mini Lyon, soit notre petite ville en version lilliputienne, est tout simplement spectaculaire. Pour coller à l'actualité de la Fête des Lumières lyonnaise, téléchargez l'appli mobile qui reprend diverses éditions de cette Fête des Lumières. Projetée sur les maquettes du Mini Lyon, cette rétrospective garantit une féerique ambiance nocturne. Les plus curieux adeptes du « comment c'est fait ?» s'attarderont dans les coulisses de création des maquettes animées. Ceux souhaitant des émotions tridimensionnelles s'installeront dans le cinéma 3D. Mais vous tous irez voir les monumentales constructions en Lego. 2 millions de pièces Lego recréent les univers d'Indiana Jones, Jurassic Park, mais aussi la Calypso du commandant Cousteau, le Titanic ou encore la base de lancement de Cap Canaveral entièrement reconstituée en Lego. Soyez attentifs à tous les détails de ces miniatures jusqu'au nom humoristique de certains lieux. Je vous défie de trouver le village Gorge Clounet. Plus d'informations sur miniworldlyon.com.
Moi j'avais envie de vous parler d'une ville. Toi tu viens de nous parler de Lyon en minuscule. Eh ben, moi j'ai envie de terminer avec Ainsi Berlin. C'est un livre de Laurent Petit-Mangin aux éditions La Manufacture de Livres. Et d'abord, pourquoi vous parlez de Laurent Petit-Mangin ? Parce que j'ai découvert son travail avec son premier roman. J'ai adoré son premier roman qui s'appelait « Ce qu'il faut de nuit ». Je vous en avais parlé ici même et puis il y a 2 ans, nous avons rencontré son auteur. Il y a même encore une ITV, une interview dans les podcasts de notre radio. Le second roman de Laurent Petit-Mangin nous entraîne donc à Berlin après la Seconde Guerre mondiale. Le sujet est original et l'écriture élégante. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse le recommander. Je vous le recommande en tout cas tout simplement. Petit résumé quand même, alors que la guerre vient de s'achever dans les décombres de Berlin, Caté et Gerd s'engagent dans la construction du monde nouveau pour lequel ils se sont battus. Ils imaginent un programme où les enfants des élites intellectuelles, retirés à leur famille, élevés loin de toute sensiblerie, formeraient une génération d'individus supérieurs, assurant l'avenir, bien sûr, de l'Allemagne de l'Est dont ils rêvent. Mais à l'ouest du mur qui s'élève, une femme a d'autres idéaux et des rêves de nouveau, de renouveau. Lise, elle est architecte américaine et elle entend bien tout faire pour défendre les valeurs du monde occidental. Quand Gerd rencontre Lise, la force de ses convictions commence à vaciller. Alors évidemment, il s'agit aussi d'un trio amoureux, d'une histoire d'amour, mais au-delà de ça, il est question bien sûr des idéaux politiques. On en a beaucoup parlé pendant cette émission. Et notamment à travers le travail militant et engagé de Gérard Paris-Clavel. Mais il est évident en fait que quand on reconstruit un monde, eh bien, on rêve de certaines choses et parfois il peut y avoir des déchirements, voire des contradictions. En tout cas, l'écriture est toujours aussi élégante, c'est magnifique. C'est Ainsi Berlin de Laurent Petit-Mangin et j'oublie évidemment aux éditions La Manufacture de Livres. C'est une édition que j'adore, les livres sont beaux, sont bien faits. Et sont aussi français, fabriqués et édités en France, pour le petit clin d'œil à notre éditeur ici présent sur notre plateau. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été nos invités aujourd'hui et d'avoir participé à cette émission. À la semaine prochaine. J'ai comme Odéon est une émission proposée par Gaël Bossier-Lombard et enregistrée à la Comédie Odéon, à retrouver sur liondemain.fr.